Blanche Oskédé Monet. Oskédé, j'ai du mal à prononcer ce nom. Philippe Piguet me reprend. On dit Oshédé et non Oskédé. Je répète, je bute encore un peu. Lui adore dire Blanche, un prénom si lumineux pour une femme qui évolua pourtant toute sa vie dans l'ombre du grand maître de Giverny. Nous parlons bien sûr de Claude Monet. Une dévotion sans faille. Après la mort du peintre, elle restera dans la demeure, la gardienne des lieux, des souvenirs, de l'histoire familiale. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle mania elle aussi les pinceaux, pour son plaisir. Elle peint Giverny, bien sûr, puis les lieux qu'elle visite, où elle part en voyage. Une peinture précise, bien cadrée, intelligente, où l'on retrouve les tons de Monet, parfois les thèmes, comme ces meules de foin sous le soleil. Philippe Piguet est le bel arrière-petit-fils de Monet, comme il aime à le dire. Son arrière-grand-mère était Alice Oshédé, seconde femme de Monet, et Blanche, la fille d'Alice, née de son premier époux, Ernest Oshédé, avec qui elle eut 5 enfants. Pour célébrer le 70e anniversaire de la mort de Blanche, le musée de Vernon à côté de Giverny présente en ce moment l'exposition « Blanche Oshédé Monet, un regard impressionniste ». J'y ai suivi les pas de Philippe Piguet, commissaire de l'exposition et expert de l'œuvre de l'artiste. Il me guide devant les toiles de Blanche, tout en me racontant sa vie, ou plutôt la vie de sa famille qu'il porte en lui et dont il a réussi à retracer des lignes parfois oubliées. Lui-même parle d'enquête dans les archives familiales. À travers les écrits, les correspondances, il a commencé à entrevoir la figure de Blanche. Et bien sûr, il s'y est attaché. Au son de sa voix, Blanche revit sa personnalité, son quotidien, ses désirs intimes même. Qui était-elle vraiment ? Voici une de ses déclarations sur sa rencontre avec Monet. C'est en 1876 que j'ai vu Monet pour la première fois. J'avais 11 ans, mais je me souviens de son arrivée à Montgeron, chez mes parents. On me l'avait annoncé comme un grand artiste ayant les cheveux longs. Cela m'avait frappé et j'ai eu tout de suite de la sympathie. Aujourd'hui, le musée de Vernon conserve 7 œuvres de Blanche. L'exposition a bien sûr pour objectif d'en montrer beaucoup plus, inconnues du public, et surtout de montrer le travail de recherche que Philippe Piguet mène depuis plusieurs années pour retrouver les tableaux de Blanche, restés en main privée pour la plupart. Philippe Piguet.
J'ai fait une grosse exposition de Blanche en 2010 dans le cadre du premier festival Normandie impressionniste à Louviers, qui est à 25 km de Giverny. Et à l'occasion, j'ai publié un bouquin qui s'appelait Blanche Oshédé Monet, un destin impressionniste, dans lequel j'ai publié une esquisse de catalogue raisonné, dans lequel il y avait à peu près 130 numéros. Depuis 2010, parce que j'avais indiqué mes coordonnées mail, j'ai eu des arrivées sur ma boîte mail me disant « Ah mais on a un tableau de Blanche et j'en ai 60 de plus depuis 7 ans ». Ce qui m'intéresse, c'est de compiler le maximum d'informations pour pouvoir publier un jour le catalogue raisonné. Mais je prends le temps et je pense que je ne le ferai pas tout de suite parce que je le ferai peut-être à l'occasion, disons, de 2025 qui sera le 160e anniversaire de sa naissance.
Très tôt, dès l'adolescence, Blanche se met à peindre aux côtés de Monet. Elle l'accompagne sur le motif. Celui-ci la conseille et reste attentif à sa peinture. Beaucoup de paysages et de natures mortes vont alors naître sur les toiles de Blanche. Voici ce qu'écrit Claude Monet à Germaine Oshédé à propos de Blanche dans une lettre du 26 février 1895. « Maintenant que vous avez le dégel et qu'elle a dû forcément cesser le travail, Il me tarde de voir ce qu'elle aura fait en mon absence.
Blanche, elle peint des paysages, elle peint des natures mortes essentiellement.
Et quelle était la personnalité justement de Blanche? Est-ce qu'on a des éléments?
Oui, on a des éléments de sa psychologie. C'était quelqu'un qui est très très humble. Très humble. Elle ne se mettait jamais en avant. Mais jamais. Elle était assez effacée, elle ne se vantait pas, mais en revanche, Monet aimait bien savoir ce qu'elle avait fait.
Mais est-ce qu'elle n'a pas été peut-être un peu étouffée?
Je ne pense pas qu'elle
dans sa carrière de peintre.
Elle ne cherchait pas à faire carrière.
Oui, mais peut-être qu'elle n'a pas cherché parce qu'il y avait déjà cette grande figure.
Alors, on peut peut-être penser qu'elle n'a pas cherché à faire carrière parce qu'il y avait la figure tutélaire de Monet qui est évidemment terriblement encombrante. Mais je pense aussi plus précisément qu'elle savait qu'elle n'était pas de cette trempe, de toutes les manières. Elle savait peindre. C'est quelque chose qui était important pour elle. C'était son pur plaisir. Je ne crois pas qu'elle ait cherché à faire œuvre. Elle a fait des œuvres. C'est très différent. Monet a fait œuvre.
En 1897, Blanche épouse Jean Monet, le fils de Monet. Le couple s'installe d'abord à Rouen, puis à Beaumont-le-Roger, des lieux qui inspirent certains des paysages de Blanche, visibles dans l'exposition. Nous suivons toujours les pas de Philippe Piguet.
Là, on commence par Rouen et Giverny. Ensuite, il y a vraiment Giverny tout seul. Et ensuite, il y a les voyages. C'est une artiste, moi, je trouve, qui est très intéressante par rapport à la façon dont elle compose. Si vous voulez, moi, j'ai un peu une idée que finalement, ce qui va la différencier beaucoup de Monet, Monet, lui, il est dans la fluidité. Il
la
est dans le
flux. Aussi.
Oui, elle aussi, elle travaille sur le motif. Hein. Une peinture, je dirais, de composition, assez solide d'ailleurs. Mais c'était une femme forte, je pense. Et je trouve que le travail, il est plus terrien que aquatique, si vous voulez, par exemple. C'est un travail qui est fortement composé, qui, je le répète, n'a pas été tellement montré, puisque elle n'a jamais fait d'exposition personnelle avant 1927. Elle est née en 65. C'est-à-dire, vous calculez, ça fait 35 et 27, ça fait 62 ans. La première expo personnelle, c'est à 62 ans. Elle avait fait des expos de groupe, elle avait participé à des salons, mais jamais une expo personnelle. Et d'ailleurs, c'est intéressant à observer, c'est que la première exposition personnelle qu'elle fait, c'est quelques mois après la mort de Monet.
À la mort de son mari en 1914, Blanche s'arrête de peindre. Elle ne reprend les pinceaux qu'après la mort de Claude Monet en 1926. Elle est alors installée à Giverny, dans la maison du peintre qu'elle admire tant. Sa peinture devient la peinture d'un quotidien domestique qui nous fournit aujourd'hui des éléments sur la personnalité de Blanche et nous donne à voir un Giverny de l'absence. Vit-elle dans les souvenirs ? Veut-elle nous les transmettre ainsi ? En 1931, dans Le Figaro, Arsène Alexandre évoque « Pendant de longues années, Mademoiselle Blanche Hochedé Monet se fit un devoir de ne point exposer ses travaux. Le culte du maître explique cette pieuse abstention tout en ayant adopté les conseils de son maître. Elle apporte dans le choix de ses motifs et des harmonies qui leur conviennent une vision et un sentiment féminin, plein de charme et de personnalité. » Philippe Piguet a aussi sa propre vision de la personnalité de Blanche. Il nous la confie.
Alice va épouser Monet. Donc, tous les enfants d'Alice deviennent des beaux enfants de Monet. Elle devient donc la belle-fille de Monet. Mieux, elle-même va épouser un fils Monet. Et pour aller dans cette histoire de rapport à Monet, quand Monet, en 1911, Alice meurt, Monet se retrouve dans une situation quand même assez dépressive. Il est à Giverny, il n'a pas encore construit le grand atelier des Nymphéas, mais il a le projet qui est dans la tête. Hein. En 14, Blanche devient veuve du fils aînée de Monet qu'elle a épousée 17 ans plus tôt. Qu'est-ce que va faire Blanche ? Plutôt que de rester dans la maison à l'autre bout du village qu'elle avait, elle va venir s'installer auprès de Monet et elle va s'arrêter de peindre pour être en quelque sorte au service de Monet et faire tourner la baraque. Je le dis simplement parce que c'est le mieux, parce que c'était une grosse maison. Donc elle va véritablement venir auprès de son beau-père pour faire en sorte que son beau-père ne s'occupe pas du domestique. C'est une grosse maison, il y a le jardin, c'est quand même... Et il a ce projet. Et effectivement, ça va tranquilliser Monet, qui va revenir à la peinture, qui va faire construire le grand atelier, et qui va faire les grandes décorations des nymphéas. Monet Blanche, est dans la quête d'un absolu.
Blanche est beaucoup plus terre-à-terre, finalement.
Et c'est ce que je vous disais
tout à l'heure. Elle cherche à représenter ce qu'elle voit
voilà.
d'une manière assez directe.
Contingente et directe. Oui, tout à fait, oui. Et c'est aussi ce qui fait qu'elle nous parle, cette peinture. Parce qu'on n'est pas tenu à distance.
Et qu'elle fait œuvre de témoignage aussi
absolument,
pour
oui.
vous, en particulier, évidemment,
bien sûr,
en
bien
tant
sûr.
Que descendant.
Absolument.
Mais aussi pour nous tous, finalement.
Oui, absolument. Oui, parce qu'elle nous fait passer quelque chose d'un quotidien que nous n'avons pas vécu et qui, finalement, nous permet de le vivre. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà.
Et c'est aussi son quotidien.
Et c'est son quotidien. En fait, voilà, vous avez trouvé le mot. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est un peintre du quotidien. Voilà, elle ne fait pas de photos, elle fait de la peinture. Elle traduit ce rapport au quotidien par la peinture. Sans intention de carrière, sans intention de faire des séries, elle n'en fait pas, de multiplier ou de peindre tous les jours. Non, non. Elle a la peinture en elle, ça c'est sûr. J'ai des lettres, par exemple, une lettre d'Alice qui relate et comment... Elle est pour Delacroix, alors que Monet combat un peu et plutôt pour Corot. C'est ça qui est... Voilà, c'est finalement...
Alors Delacroix, c'est un peintre fougueux quand même.
Et fort, ouais.
Il y a aussi une forte personnalité...
Chez Delacroix, oui, tout à fait.
Chez Delacroix et aussi chez Blanche.
Et chez Blanche. Elle a repris les pinceaux. Alors, si je suis très précis, elle a repris les pinceaux après la mort de Monet, c'est ce qui a toujours été dit dans la famille. Là où je suis en but, c'est qu'il y a une étudiante qui fait une maîtrise sur Blanche-Eselet qui m'envoie un mail en me disant « Vous m'avez dit qu'elle avait arrêté, mais regardez ce tableau que j'ai retrouvé, il est daté 21. Je, » J'essaierai de débrouiller les fils.
C'est une véritable enquête.
C'est une enquête permanente.
Sur l'histoire de votre famille.
Mais ça n'est pas fini. Mais oui, regardez, ça c'est très intéressant. Voilà un tableau Blanche-Eselet Monet 28. C'est la salle à manger de Monet. Bon, non, c'est le pas la salle à manger, elle est jaune. C'est le petit salon. Elle a enlevé le qui a enlevé, qui a masqué le nom de Monet. Elle avait du mal à signer Blanche-Eselet Monet, ça c'est sûr, parce que ça la gênait. Je ne serais pas étonné que ce soit elle-même qui l'ait fait, mais voilà un peu.
Elle voulait pas qu'on la compare à Monet.
Elle avait trop de considération pour son beau-père et surtout pour le peintre qui était Monet, quoi. Beaucoup trop, donc voilà. Et voilà un dernier tableau qui a été... Voilà, ça c'est un cas d'espèce mais parfait. Je crois que c'est en janvier ou en février. Je vois arriver par mes alertes informatiques vente à Deauville, tableau de Blanche-Eselet. Et je vois ça, je ne l'avais jamais vu. Je suis fasciné comment, quand on a un nouveau tableau qui arrive, et même à l'écran ordinateur, on a parfois, c'en est un, c'est sûr. Il y a une espèce d'intuition, il y a un truc. Je ne saurais jamais le définir, c'est compliqué. C'est une question de présence, je dis, moi.
Celle que Clémenceau appelait « l'ange bleu » de Claude Monet peindra aussi lors de ses déplacements en Bretagne ou dans les Alpes. Toujours ce qu'elle voit avec cette précision descriptive. Le 12 septembre 1927, Clémenceau lui écrit « Tenez-vous ferme à vos pinceaux, c'est la grande affaire. Ils possèdent et posséderont la vertu de vous faire oublier le vide. » Le vide, celui de l'absence probablement. Peindre était donc peut-être pour Blanche le seul moyen de vivre encore avec Monet. Une preuve d'amour et l'unique moyen de se consoler. La rigueur de ses compositions témoigne aussi peut-être de cette volonté à vouloir tenir le cap, comme le sous-entend Clémenceau dans sa lettre, qui lui aussi fut très touché par la disparition de son très grand ami, Claude Monet.
Elle était très proche de Clémenceau. 27-29, séjour chez Georges Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard en Vendée, elle y brosse quelques peintures. Vous voyez, elle voyage en Italie. Récemment est passé un tableau d'elle que j'avais jamais vu, qui est un tableau de Venise, c'est le seul que je connaisse de Venise. Exposition personnelle de Blanchaudet chez Bernheim, des séjours en Normandie, en Provence, en Auvergne, etc. Et puis, voilà, ils seront dans l'Allier en 40, et exposition encore en 42 et encore en 47.
Alors là, concrètement, Philippe Piguet, vous en êtes à combien de tableaux recensés de la main de Blanche ?
Alors, concrètement, on va dire qu'il y en a à peu près maintenant 200. Mais sur les 200, il y en a à mon avis une bonne cinquantaine. Je n'en connais pas la localisation. J'ai toute la documentation qui confirme bien que ce sont des tableaux de Blanche, mais je n'ai pas la localisation.
Mais vous n'avez pas non plus l'image du coup du tableau.
Alors, parfois oui, parfois non.
Donc l'enquête va continuer et on peut imaginer que comme elle a peint toute sa vie, il y en a encore d'autres.
Je pense au prorata que l'œuvre de Blanche peut-être compter 300 œuvres. Mais ce sont quand même des tableaux de qualité qui sont inscrits dans une histoire de l'art très importante.
Qui sont inscrits dans une grande histoire de l'art et dans une petite histoire de l'art aussi.
Vous avez raison. Vous avez raison, les deux bouts de la lorgnette.
Exactement, qui nous touche aussi.
Absolument, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur Blanche-Ausquier.
Pourquoi vous êtes intéressé à Blanche-Ausquier des Monet ?
Alors, j'ai une réponse qui est la suivante. C'est que ma famille, nous avions une maison, ma grand-mère, la sœur de Blanche, à l'autre bout du village par rapport à celle de Monet. C'est d'ailleurs une maison qu'avait acheté Monet pour que son fils aîné marié à Blanche, quand il venait à Giverny, puisse avoir un pied à terre. Cette maison, sa sœur, ma grand-mère, l'a rachetée à Blanche. Elle est restée dans la famille jusqu'à ma mère. Et quand ma mère est morte, on a revendu la maison. 1900. Donc cette maison, ça a été ma maison. Puis cette maison, c'était... Voilà, on a grandi dans cette maison pendant les vacances. Et puis, avant cela, quand ma grand-mère était encore vivante, j'aurais dû commencer par là, il fallait aller garder la grand-mère le week-end. Et nous, les petits derniers de cette tribu de 12, c'était à nous d'aller, parce que les grands, ils étaient des fois mariés. Quand c'était à mon tour d'aller à Giverny, quand j'avais, allez, on va dire, 14, 15, 16 ans, d'aller à Giverny garder la grand-mère...
C'est pas un âge où on est forcément très enclin.
Comme je dis toujours, je préférais aller avec les filles à la patinoire. Logique. Donc, bon, tu vas garder ta grand-mère à Giverny. Ok. Qu'est-ce que je faisais ? D'où ça venait ? Et pourquoi je faisais ? J'ai fouillé la maison. Et je montrais à ma grand-mère, regarde ce que j'ai trouvé, ces photos. Qu'est-ce que c'est ? Parlement. Garde. Et j'ai constitué ainsi des archives, qui sont assez importantes, qui tournent maintenant, parce que ces archives concernent Monet, que j'ai conservé à peu près 300 photos de famille. Il y en a à peu près un noyau de 50 qui sont très intéressantes. Au Grand Palais que j'ai prêté pour l'exposition Jardin, il y en a encore à Metz pour le Jardin Sublime. J'ai trouvé des lettres.
Donc ça, c'est un petit trésor familial que tout jeune homme, vous avez trouvé
voilà,
dans
tout
la
à
maison,
fait. Tout
qui
à fait.
Est aujourd'hui, évidemment...
Voilà. Bah oui, j'ai trouvé des lettres parce que Alice, la deuxième femme de Monet, mon arrière-grand-mère, elle avait un faible particulier pour sa petite dernière, ma grand-mère. J'ai donc, à cette époque, trouvé des lettres, gardé les lettres aussi, comme les photos. Comme par exemple, avoir trouvé un jour un paquet, il y a marqué Venise, qui m'a donné l'occasion, en 86, ça fait 20 ou 31 ans, de faire mon premier livre, Monet et Venise, parce que c'était le paquet de lettres quotidiennes Alice à sa fille Germaine, racontant le voyage avec Monet à Venise, d'où il est revenu avec 37 toiles. Donc on suit Monet au travail. Et le reste, c'est à peu près plusieurs centaines de lettres. C'est dans ces moments-là que j'ai eu, je me suis intéressé à Blanche. Pourquoi, je pourrais pas vous dire. C'est parce que c'était aussi quelque chose d'assez naturel. On a vécu toujours avec des tableaux de Blanche sous les yeux. J'ai, comme elle l'a fait Blanche pour chaque frère et sœur, elle nous a donné un tableau. Donc j'arrive au monde, je suis collectionneur. Et sans savoir du tout que j'allais développer tout ce travail d'historien d'art sur Monet aussi, parce que je travaille énormément sur Monet, parce que j'ai fait un film sur Monet, le film de la grande rétrospective du Grand Palais. Donc c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses. Je fais toujours beaucoup de choses sur Monet, des articles. J'ai écrit une pièce de théâtre sur Monet qui a été jouée ici la première fois au musée.
30 ans d'un travail opiniâtre et heureux. Tableaux faits tous avec un goût trop sûr pour paraître sévère, mais qui n'empruntent rien qu'au moyen d'un très pur talent de peintre. Écrit Thaddée Natanson dans le catalogue de l'exposition à la Galerie d'art Drouot-Provence en 1942. Philippe Piguet, lui, aujourd'hui, en 2017, cherche encore à mieux comprendre Blanche. Avec son regard critique, de regardeur justement, il enquête, regarde à nouveau, se demande pourquoi le nom de Monet est recouvert pour être caché sur les toiles de Blanche. Est-ce que c'est elle qui a caché ce nom trop connu, trop symbolique? Avait-elle trop d'estime pour Claude Monet?
Elle a cherché à acter par la peinture un ressenti qu'elle avait sur le monde extérieur. Voilà, c'est un peu comme son journal, on pourrait peut-être dire. Hein.
Oui, ça reste. Mais en peinture. Des œuvres intimes. Ça reste des œuvres assez. Finalement, oui, absolument. Et pas pour qu'elles soient
vues. Pas pour qu'elles soient vues, puisque, comme je disais, sa première exposition en 27, elle a 62 ans. Ça prouve bien qu'elle n'était pas dans une intrépidité à montrer son travail. Mais si on regarde une peinture de Blanche, il y a de la qualité. Il y a vraiment de la qualité parce qu'elle a su écouter, elle a su voir quelqu'un qui était dans son immédiate proximité et pour lequel elle avait une dévotion absolue. Je dirais pas que ça déteint, parce que c'est pas un mot favorable, mais ça la porte, ça
on
la
peut
nourrit.
Penser que quand elle peint, elle repense évidemment
certainement
à ce que lui a dit Monet, à ce qu'il a peint, à ce
absolument,
qu'elle aimait de
bien
lui.
Bien sûr.
Aussi,
mais voyez, par exemple, il y a une chose que je.
Elle a jamais fait de portrait, par exemple, de Monet. On en connaît.
Non, je n'en connais pas. On n'en connaît pas. Et pourtant. Il y en a un dont on ne sait pas, qui est dans la famille, un portrait de Monet. Il faut que j'aille le voir et peut-être j'aurai une réaction en me disant « Ah bah oui, finalement, c'est elle, peut-être, parce qu'elle était l'âme de Monet. »
Blanche Hochedet Monet était l'âme de Monet. Je termine cette visite avec cette phrase au musée de Vernon en compagnie de Philippe Piguet avec ce sentiment d'avoir arpenté quelques chemins secrets peu connus de la grande histoire de Giverny. Philippe Piguet, critique d'art contemporain reconnu, ami de nombreux artistes actuels, insiste sur le fait qu'à l'instar de sa famille, il y a plus de 100 ans, notamment à l'instar de son arrière-grand-père Ernest Hochedet, il aime s'entourer d'artistes d'aujourd'hui. Il les collectionne d'ailleurs en grand nombre, ce qui ne l'empêche pas, comme on vient de le voir, de vivre aussi dans l'âme de Blanche, d'Ernest et de Monet, à travers les archives familiales. L'enquête continue. Je tiens à remercier ici Philippe Piguet pour cette visite touchante d'une exposition que vous pouvez donc aller découvrir jusqu'au 29 octobre encore au musée de Vernon à côté de Giverny, Blanche Auchedet-Monet, un regard impressionniste, une exposition comme vous n'en verrez nulle part ailleurs, une exposition intimiste d'une peintre très peu connue, au nom si connu. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. C'était De l'art dans les oreilles sur Art District avec Julie Chaise-Martin. Et je vous dis à la prochaine fois pour une promenade sonore dans une exposition à découvrir. Très bonne suite de nos programmes sur Art District.